On va juste prier avant de commencer ce matin et avant d'aller dans la parole de Dieu, parce que j'ai un message dans mon cœur qui est destiné à vous aider, qui est destiné à vous encourager aujourd'hui. Donc, Père Céleste, au nom de Jésus, je te remercie pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ta parole. Et merci, Seigneur, que les cœurs de tous les mondes, Seigneur, ce matin sont ouverts. Merci, Seigneur, que tu vas parler à nous et que nous allons entendre ta voix et nous allons pouvoir, Seigneur, être transformés de gloire en gloire. Donc, vous savez que on aime tellement ici à la vie comblée faire une petite déclaration de la foi. Donc, si vous avez une Bible avec vous, je vous invite à prendre votre Bible. Si vous n'avez pas de Bible, il y a une feuille que nous avons donnée à la porte. S'il y a des gens qui n'ont pas encore reçu leur feuille, juste levez la main, on va vous en donner une. Mais ça contient presque tous les versets qu'on va voir ce matin. Et on va dire ceci. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Et je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Et je serai jamais plus pareil. Ma vie va être transformée de gloire en gloire dans l'image de Jésus. Amen. Amen. Donc, vous savez que Noël s'en vient à grands pas. Et le titre du message ce matin, c'est « Ne manquez pas Noël ». Est-ce qu'il y a des gens qui pensent que c'est possible de manquer Noël? Hein, avec tout le monde qui en parle, on a juste quelques jours qui restent avant le 25 et dans les magasins, à la radio, tout le monde parle de Noël. Tout le monde se prépare pour fêter avec les familles ou faire autre chose. Les gens souvent sont en train d'acheter des cadeaux et de faire des grandes préparations. Et moi, j'ai toujours vu, hein, quand on regarde dans notre entourage, que Noël, ça peut être une saison de joie ou ça peut être une saison vraiment déprimante pour les gens aussi. Est-ce que vous avez remarqué? Hein? Il y a beaucoup de gens qui sont tellement stressés. Ils sont stressés parce qu'ils savent pas quoi acheter, ils n'ont pas des moyens pour acheter ou ils savent pas quoi faire ou il y a rien à faire parce qu'ils n'ont pas de famille ou pas de parenté. Donc, on voit que malheureusement, Noël est devenu un temps stressant pour beaucoup de gens. Mais pour nous qui sommes les enfants de Dieu, ça ne devrait pas être le cas. On devrait se souvenir de la raison pour la saison et c'est Jésus, n'est-ce pas? On va dire cela. Jésus est la raison pour la saison. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que souvent, si on regarde autour de nous, dans notre entourage même, la plupart des gens, ils vont manquer complètement le but de Noël. Ils vont penser que c'est les cadeaux, c'est les ragoûts, c'est les messes spéciales de temps des fêtes. Et les gens pensent que Noël, c'est ça. On échange les cadeaux, on se bourre avec la nourriture et puis, au jour de l'an, on prend un vœu qu'on va suivre un régime pour l'année qui s'en vient. Mais laisse-moi vous dire que ça, c'est pas le but de Noël. Il y a une raison pour laquelle on va célébrer. Et ça, c'est Jésus. Et il y a quelques versets que j'avais vraiment à cœur de partager ce matin. Ésaïe chapitre 7, verset 14, c'est dans vos notes. Il y a une prophétie qui a été donnée des centaines d'années avant que Jésus soit né. Et le prophète de Dieu a dit ceci, il a dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Et voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Vous savez que le nom Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Mais ici, c'est une prophétie. Nous, des fois, on perd vraiment la signification de qu'est-ce qui se passe ici parce que nous avons toute la Bible et nous pouvons lire dans le Nouveau Testament. On peut lire l'histoire de Marie. On peut voir que le Saint-Esprit a fait une œuvre dans son corps physique même. Avant ça, il a fait une œuvre dans son cœur. Elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Et elle a conçu en elle-même le Fils de Dieu, la parole de Dieu. Elle a donné naissance au Fils de Dieu. Et on peut lire cela, on connaît la fin de l'histoire, mais n'oubliez pas que quand le prophète Ésaïe a dit cela, il ne connaissait pas la fin de l'histoire. C'était tout nouveau. Hein? C'était un mystère pour lui. Quand il a dit qu'une vierge enfantera, ça c'est quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas? Combien de vous croyez vraiment que Marie était vierge quand elle a accouché? Est-ce qu'il y a des gens qui sont d'accord que, naturellement parlant, que ça, c'est une chose impossible? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord que dans le naturel, il est impossible pour une femme qui est vierge d'accoucher et de donner naissance en enfant? Mais là, on voit ici que cela a été prophétisé. Imagine, mettez-vous à la place de Ésaïe le prophète quand il commence à dire ceci. Peut-être il comprenait pas du tout, sûrement il comprenait pas du tout qu'est-ce que ses oreilles entendaient. Il vient de dire et de déclarer et d'écrire même qu'une vierge allait donner naissance à un fils. C'est fou! Est-ce que vous êtes d'accord? Mais c'est pas fou quand c'est Dieu qui donne la parole. Et en fait, on voit que Marie, quand l'ange Gabriel est allé voir Marie, en fait, sa cousine était enceinte de 6 mois. On parle d'Élisabeth qui a donné naissance à Jean le Baptiste. Et dans son 6e mois, là, on voit que l'ange Gabriel est allé voir Marie et a donné un message à Marie. Et Marie a été troublée à ce message au début. Et puis, l'ange a expliqué comment elle allait tomber enceinte par la vertu de Dieu, que le Saint-Esprit allait venir sur elle et couvrir Marie. Et elle allait vraiment concevoir littéralement dans son ventre le Fils de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a dit? C'est que rien n'est impossible à Dieu. Et ce mot « rien » est impossible, c'est le mot « réma ». Aucune parole que Dieu parle, que Dieu nous donne, est impossible. Aucune parole que Dieu nous donne est sans pouvoir d'accomplissement. Et ça, c'est la beauté de Noël. C'est que quand Dieu donne une parole, il donne toujours un moyen de l'accomplir aussi. Donc, quand Dieu a dit à Ésaïe qu'une vierge allait tomber enceinte et allait donner naissance à un fils, c'était une parole folle pour l'intelligence humaine. Mais c'était une parole accompagnée de la puissance de Dieu, la puissance de l'accomplissement. Et aujourd'hui, je suis là pour vous dire qu'il y a des choses que Dieu veut faire dans votre vie. Il y a des promesses qu'il veut accomplir dans votre vie. Il y a des rêves qu'il veut réaliser dans votre vie. Et si vous croyez aujourd'hui, vous allez voir l'accomplissement de ces rêves et ces visions. Amen? Mais il faut avoir la même attitude que Marie. Elle était homme du cœur, elle a reçu avec humilité la parole de Dieu. Elle a dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Imaginez, si elle aurait refusé, si elle aurait dit, ah, c'est impossible, ça se peut pas que je tombe enceinte par la vertu de Dieu, par la puissance de Dieu. Impossible. Si elle aurait refusé, elle n'aurait pas eu la chance de devenir la mère naturelle de Jésus-Christ. Et vous, aujourd'hui, je vous pose la question, qu'est-ce que Dieu est en train de vous parler? Qu'est-ce qu'il veut vous révéler aujourd'hui? Pour votre vie. Est-ce qu'il veut vous offrir aujourd'hui la promesse du ciel, par exemple? Peut-être qu'il y a des gens ici qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus et votre destinée aujourd'hui, c'est pas le ciel, c'est autre chose. Et aujourd'hui, le Seigneur veut vous révéler, il veut vous donner la promesse de la vie éternelle qui est un don gratuit que vous pouvez recevoir. Mais si vous refusez, Dieu lui-même ne peut rien faire de plus. Aujourd'hui, il y a des choses que Dieu veut accomplir. Comme il a accompli la promesse qu'il a donnée à Ésaïe, que voici la Vierge deviendra enceinte. Et vous dites, dans votre vie, vous regardez les choses, et vous, peut-être vous êtes en train de dire, impossible que je réussisse dans la vie. Ma vie est trop maganée, ma vie est trop, je suis trop de, il y a trop de déceptions que j'ai vécues, trop des choses que j'ai vues. Et vous dites, c'est impossible, mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Que si le Seigneur est capable de faire tomber enceinte une vierge, il est capable de restaurer votre vie aussi. Amen. Et combien de vous croyez vraiment que la vierge est tombée enceinte? Alléluia! Elle est tombée enceinte. Et le bébé qui est né, c'est pas juste un petit bébé. Vous savez, beaucoup de gens ont manqué Noël. Les Juifs qui ont eu Ésaïe. Aujourd'hui, il y a toute une nation des Juifs qui ont Ésaïe dans leur livre. Ils vont lire Ésaïe régulièrement. Il y a des érudits juifs qui sont capables de citer par cœur toutes ces prophéties, mais ils ont manqué Noël. Ils n'ont pas cru. Quand Jésus est venu, ils ne l'ont pas cru. Ils ont refusé et rejeté le Fils de Dieu. Mais aujourd'hui, Je ne veux pas que vous manquiez Noël. Je ne veux pas que vous manquiez qu'est-ce que Dieu veut faire dans votre vie. Ésaïe chapitre 9, il y avait une autre prophétie qui dit ceci. Car un enfant nous est né et un fils nous est donné. L'enfant est né, mais le fils est donné. Pourquoi? Parce que comme on va voir dans quelques minutes dans un autre verset, le Fils de Dieu a toujours existé. Le Fils de Dieu n'a pas de commencement. Le Fils de Dieu existait toujours auprès du Père. Le Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit existent depuis toujours. Il n'y a pas un milliseconde dans l'éternité passée où le Fils de Dieu n'a pas existé. Le Fils a toujours existé. Mais le Fils a été donné. Mais la façon que Dieu le Père a donné son Fils, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il avait besoin de faire entrer son Fils dans le monde. Comment? Comment? En faisant tomber enceinte une vierge qui s'appelait Marie. Et c'est pourquoi on peut dire qu'un enfant est né, mais le Fils fut donné. Et la domination, ou on peut dire l'autorité, reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Quelle prophétie merveilleuse! Il a déjà prophétisé qu'une vierge allait tomber enceinte. Et quand la vierge tombait enceinte, ce n'était pas avec n'importe qui, c'était avec le Fils qui existait toujours avant la création du monde et par qui et pour qui toutes choses ont été créées. N'est-ce pas incroyable de penser à cela? Que le Créateur s'est lié avec la création. Le Créateur fut conçu dans le ventre d'un être humain, dans une vierge qui s'appelait Marie. Et que le Créateur de l'univers fut né comme enfant. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens, les Juifs n'ont même pas cru à cela. Mais il y a des chrétiens même aujourd'hui. Des personnes qui se disent chrétiens, qui vont dire que oui, je crois que Jésus est venu. Il y a combien de gens vont parler de mon petit Jésus dans la crèche? Et tout ce qu'ils voient, c'est un bébé, un petit Jésus. Et ils ne voient pas que oui, c'est un enfant qui fut né, mais c'est le Fils de Dieu qui a été donné. Et lui, il est admirable. Lui, il est le Dieu Tout-Puissant. Lui, c'est le conseiller de tous les conseillers, n'est-ce pas? C'est le Seigneur de tous, Seigneur. C'est le roi des rois aussi, n'est-ce pas? Et je dois vous avouer que ça me dérange des fois d'entendre les personnes parler de « on peut juste demander à mon petit Jésus. Mon Jésus n'est pas petit. Mon Jésus est grand. Mon Jésus est tout puissant. Mon Jésus est le roi de l'univers. Mon Jésus est assis à la droite du Père aujourd'hui. » Mon Jésus est au-dessus de toute autorité et de tout nom qui peut se nommer. Il est merveilleux, il est admirable, n'est-ce pas? En Jean chapitre 1, regardons ce verset, parce qu'il y a des choses que, si on ne comprend pas, on va manquer le miracle de Noël. Parce que Noël, c'est vraiment un miracle. On ne parle pas de Papa Noël ou Baba Natale, on parle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Hein? Aujourd'hui, il y a tellement de gens qui... On pense à Noël et on pense aux lutins, on pense aux bonbons, on pense aux cadeaux, bonhomme de neige, sapin de Noël. Et laisse-moi vous dire, moi j'aime les sapins. On a un sapin de Noël ici, on n'a rien contre ça. On aime échanger les cadeaux. Mais qu'est-ce qu'on n'aime pas? C'est de manquer le miracle de Noël. J'ai vu une fois un tableau, c'était quelqu'un qui a peinturé une image de Père Noël qui était à genoux devant la crèche de Jésus. Est-ce que vous avez déjà vu cela? La Bible dit que tous les genoux vont se fléchir un jour, hein? Même Baba Natale. Au commencement, Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Comment on dit la parole était Dieu? Elle était au commencement avec Dieu. et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, mais voici la tragédie, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et laissez-moi vous dire que tout homme a besoin d'être éclairé. Verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je vais le lire encore ce verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je veux juste dire une chose aujourd'hui. J'ai entendu, j'étais en train de faire une commission hier et j'ai entendu dans un magasin, à la radio, un chant qui jouait. Et je m'en souviens plus de toutes les paroles, mais il y avait une chose qui était dit, genre, enfin Noël pour toujours, une chose de ce genre. Que la paix, tout le monde va s'entendre. Le message du chant, c'était que tout le monde, enfin, le monde entier va s'entendre. Toutes les guerres vont cesser. Tout le monde va être ami. Mais le problème, c'est que, j'ai pas entendu tout le chant, peut-être, c'était un bon chant, mais je pense pas qu'il chantait de Jésus. Et je vais vous dire une chose, on ne peut pas avoir la paix sur la terre sans avoir le prince de paix. Il y a cette idée aujourd'hui que si on est juste tolérant les uns des autres, si on peut juste être compréhensif, essayer d'accepter tout le monde tel qu'ils sont, laisse-moi vous dire, il y a une certaine réalité de cela. Il faut accepter tout le monde, il faut avoir du respect pour tout le monde. Chaque être humain est digne de respect, n'est-ce pas? Peu importe la race, peu importe la couleur, peu importe la religion, peu importe le sexe ou quoi que ce soit. Chaque être humain est digne de respect et chaque être humain est la création de Dieu. Vous êtes d'accord?
Oui.
Tout le monde a été créé par Jésus. Il n'y a pas un individu sur la planète qui n'est pas important aux yeux de Dieu. Vous êtes d'accord? Mais la réalité, c'est que ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, ceux qui n'ont pas encore reçu la parole qui était avec Dieu et qui était Dieu, la lumière qui éclaire tout homme, les gens qui n'ont pas encore reçu personnellement Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, ces gens ne sont pas encore enfants de Dieu. Et combien de fois on entend les gens dire, mais tu sais, on est tous les enfants de Dieu. Que vous soyez bouddhiste ou hindou ou quoi que ce soit, on est tous les enfants de Dieu. Et ça, c'est un mensonge, malheureusement, qui va envoyer malheureusement beaucoup des gens à une éternité sans Dieu. Parce que la réalité, c'est que nous sommes tous la création de Dieu et Dieu aime tout le monde. Et il a aimé le monde tellement qu'il a donné son Fils afin que quiconque, qu'il soit bouddhiste, qu'il soit hindou, qu'il soit homme, femme, noir, blanc, chinois, africain, peu importe qui vous êtes, quel est votre nom, quelle est votre expérience, pauvre, riche, éduqué, pas éduqué, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais la réalité, c'est que si vous ne recevez pas le plus beau cadeau de Noël, qui est Jésus, vous n'êtes pas encore enfant de Dieu. Seulement ceux qui ont reçu Jésus, qui ont reçu la parole, sont devenus enfants de Dieu. Amen. Verset 13 dit, « Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Verset 14 dit, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Et aujourd'hui, je veux juste prendre quelques minutes pour réfléchir à Noël. Je veux réfléchir à cet enfant qui fut né et ce fils qui fut donné. Je ne veux pas qu'on manque la réalité de celui qui était dans la crèche. Je ne veux pas qu'on manque la grandeur, la splendeur, la puissance que Dieu nous a révélée en envoyant son Fils unique. Trop des chrétiens vont penser à Noël, ils vont voir la crèche, ils vont penser à leur petit Jésus. Il y a d'autres qui ne pensent même pas à lui. Il y a même aujourd'hui tout un mouvement aux États-Unis qui veulent interdire que les jeunes mettent les crèches dans les lieux publics. On ne devrait pas à Noël avoir une crèche parce que il faut avoir une séparation entre l'État et l'Église. Laisse-moi vous dire, les gens qui ont fondé ce pays capoteraient, on dirait, d'entendre cela, parce que la raison qu'ils sont venus en Amérique du Nord, c'était d'avoir la liberté de célébrer Jésus. Mais aujourd'hui, on voit les personnes qui veulent ôter Dieu de Noël, et même ceux qui croient que oui, c'est la naissance de Jésus, ils ne comprennent pas, ils ont manqué quelque chose. Ils n'ont pas eu cet esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu. Ils n'ont pas vu avec les yeux de l'esprit la réalité. Ils ont manqué le miracle de Noël. Et c'est pourquoi j'ai trois exhortations à vous donner avant de terminer le message. Et premièrement, première exhortation, ne manquez pas la grandeur de sa divinité. On oublie que quand on pense à la crèche, on pense à Jésus, on pense à cet enfant qui fut né, ce fils qui fut donné, que ce n'était pas n'importe quel enfant, que c'était vraiment, littéralement, Dieu qui s'est fait chair. Tout le monde, vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui croient en Jésus. Beaucoup de gens qui vont même dire, « Oh oui, c'était un bon prophète. C'est correct, je crois en Jésus. Moi, j'essaie de suivre les enseignements de Jésus. » Moi, j'ai des membres de ma parenté, des personnes très proches à moi, mon propre père biologique, qui dit, « Oh, mais tu sais, oh, je crois que Jésus existait. » Et moi, je pense qu'on devrait suivre, en général, ses enseignements, mais il n'est pas prêt à accepter qu'il est le Fils unique de Dieu et qu'il est Dieu. Ça, c'est sérieux, n'est-ce pas? Soit il est Dieu. Combien de vous avez vu le film Narnia? Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu cela? Moi, c'est pas souvent que je vais conseiller d'aller voir un film, mais va voir le film Narnia. Narnia, vous n'avez pas entendu parler de ça. C'est de valeur. Allez voir et amenez vos amis. Amenez vos amis. C'est une histoire écrite par C.S. Lewis. C.S. Lewis était un chrétien, un érudit, un théologien en plus même. Un gars qui connaissait les Écritures. C'est lui qui a écrit cette histoire. Et ils ont fait un film avec. C'est les mêmes personnes qui ont fait Le Seigneur des Agneaux qui ont fait ce film-là. C'est bien fait. Mais en réalité, c'est l'histoire de la rédemption. Mais même dans ce film, ils vont citer quelque chose, un principe que C.S. Lewis a dit une fois dans son livre en anglais. Le titre, c'est « Mere Christianity ». Parce qu'il y a des gens qui vont dire, « Ah, oh, ben, je crois que Jésus, c'était un bon homme, mais peut-être un bon prophète, mais je ne crois pas qu'il est Dieu. » Et il a dit, dans le fond, il y a juste trois choix qu'on peut faire. Soit Jésus est qui est menteur, parce qu'il a dit qu'il était Dieu, n'est-ce pas? Soit il est menteur, soit il est maniaque, parce qu'il disait qu'il était... Et tu sais, c'est quelqu'un qui se dit, et qui dit, bon, moi je suis Dieu. S'il n'est pas Dieu, il est maniaque, vous êtes d'accord? Il est fou. Donc, soit il est menteur, il voulait juste séduire le monde, il est menteur, soit il est maniaque, ou il est maître. Il est vraiment qui il dit qu'il est. On n'a pas d'autre choix. Ils vont même citer ce principe dans le film Narnia. Je vous encourage d'aller voir. Et c'est pas dû à voir que Aslan, le lion dans le film, représente Jésus. Et c'est lui qui donne sa vie pour sauver les autres. Donc, mais manquez pas la réalité que Jésus, ce n'est pas juste une bonne personne, un bon prophète, un bon enseignant qui nous a donné un nouveau code d'éthique à suivre. C'est vraiment le Fils de Dieu qui s'est fait chair. Colossiens 1, 15 et 16 dit, « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. » Tout a été créé par lui et pour lui. Donc, c'est-à-dire que Le petit bébé qui était dans la crèche, c'était le créateur de l'univers. Il a créé l'arbre qui a été utilisé pour faire la crèche. C'est lui qui a créé aussi l'arbre qui a été utilisé comme croix. C'est lui qui a créé même les hommes qui l'ont cloué à cette croix. Colossiens 2, 9 et 10 dit car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Est-ce que vous avez entendu cela? En Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Vous n'avez pas besoin d'autre chose si vous avez Jésus. Vous n'avez pas besoin d'un autre cadeau de Noël. Vous savez, je ne sais pas si vos enfants sont comme ça, mais mes enfants aiment des listes de cadeaux. Ils veulent nous dire qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir pour Noël. Est-ce que vous avez fait cela comme enfant? Est-ce que vous avez eu cela comme expérience? Laisse-moi vous dire que si vous avez Jésus, vous avez tout pleinement en lui. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Intéressant, n'est-ce pas, que Hébreux 1, 8 dit, mais il dit, au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Jésus est Dieu. Tout le monde dit, Jésus est Dieu. Hallelujah. Il n'est pas un Dieu, comme disent les témoins de Jéhovah. Au commencement était la parole était avec Dieu, et eux autres, ils ont changé le Bible, c'est marqué, et la parole était en Dieu. Non, il n'est pas en Dieu, c'est pas la première création de Dieu, c'est lui le créateur. Jésus est Dieu. Manquez pas sa divinité. Mais la deuxième chose qu'il ne faut pas manquer, c'est la merveille de son humanité. Dieu est à la fois, Jésus est à la fois 100% Dieu et 100% homme. Comment est-ce que ça peut être une possibilité? Est-ce que vous comprenez cela avec votre petit cerveau? Est-ce que vous avez saisi tout le mystère? Est-ce que nous comprenons cela avec nos petits cerveaux? Et je sais que quand on pointe un doigt, on a trois qui pointent à soi-même. Hein? Mais la réalité, c'est que Jésus-Christ, il est Dieu. Mais Jésus-Christ est homme aussi. Et ça, c'est la beauté de Noël. La parole s'est fait chair. Un acte de sa propre volonté, le Fils de Dieu a accepté de devenir une seule plante avec sa création. Ça, c'est merveilleux. Ça dépasse ma capacité de comprendre avec mon intellect. Et vous? Philippiens 2, 5 dit ceci, c'est dans vos notes. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Tout le monde dit un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ça, c'est un miracle. Que le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé toutes choses, avait la capacité de se dépouiller et de dire, bon, même si je suis Dieu, je vais maintenant devenir un homme et marcher sur la terre comme un homme. Je vais avoir toutes les limitations d'un homme. J'aurai besoin de manger. J'aurai besoin de dormir. J'aurai besoin de me reposer comme un homme, comme un simple homme. J'aurais pas la capacité de faire des miracles avant que je sois baptisé par mon cousin Jean dans le Jourdain et que l'Esprit Saint descend sur moi sous forme d'une colombe. Et à ce moment-là, je serai un homme revêtu de la puissance d'en haut, revêtu de la puissance de l'Esprit. Et à partir de ce moment-là, Jésus a commencé à faire des miracles. Il a commencé à ressusciter les morts et guérir les malades. Il allait de lieu en lieu. On sait comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Mais avant cette journée-là, il a vécu les premières 30 quelques années de sa vie comme un simple homme, même pas revêtu de la puissance d'en haut, mais portant en lui-même la nature divine. Il n'avait pas la nature pécheresse. Il avait la nature de Dieu. Amen? il y a quelque chose qui m'a tellement touché. Si je recule peut-être 10 ans, j'ai eu une révélation du miracle de l'incarnation. Qu'est-ce qu'on appelle l'incarnation? Quand Dieu s'est fait chair. Dieu le Fils est devenu homme. Quand je pense à cela, le fait que dans les siècles précédents, Dieu a donné une promesse à David, le roi. Il a dit à David que vous aurez toujours un membre de ta postérité qui serait assis d'Israël. Il a fait une promesse à un homme, David. David savait qu'un de ses enfants, un de ses descendants allait trôner sur Israël pour la perpétuité. Et quand on pense à cela, le fait que Jésus est le fils de David, hein, combien de vous vous rappelez Bartimée qui disait, « Oh, Jésus, fils de David, aie pitié de moi! » Fils de David, Jésus, selon la chair, était le fils de David. Selon l'esprit, il était le fils de Dieu. Amen, tout le monde dit, Dieu, Jésus est fils de Dieu? Il est aussi le fils de David. Et que quand Dieu s'est fait chair, il s'est lié pour éternité avec la race humaine. Dieu est devenu un homme et la réalité, c'est que Jésus est encore un homme aujourd'hui. Est-ce que vous savez qu'un homme est le roi de l'univers? C'est pas juste Dieu qui est le roi de l'univers, c'est l'homme-Dieu qui est le roi de l'univers. Il y a un membre de la race humaine qui est assis sur le trône du ciel. Et je vois dans vos yeux, plusieurs de vos yeux même. Moi, j'ai eu une personne à l'école biblique où j'ai enseigné même en France qui a dit, « Oh non, ça c'est une fausse doctrine, c'est pas vrai ça. Jésus est devenu un homme, mais il n'est plus un homme. » La personne a dit, « Non, il n'est plus un homme. Il était un homme, mais maintenant il n'est plus un homme. » Laisse-moi vous dire, Jésus est encore un homme, mais il est un homme glorifié. Il est encore Dieu aussi. Il n'a jamais cessé d'être homme. Quand il est devenu homme, il était un homme, un simple homme, avec toutes les limitations d'un homme ici sur la terre. Mais maintenant, il est un homme ressuscité et encore glorifié avec la même gloire qu'il avait auprès du Père. Maintenant, Jésus-Christ a élevé l'état de la race humaine, le potentiel de la race humaine. Il est devenu pour un peu de temps ce que nous étions afin que nous puissions devenir pour éternité ce qu'il est. On ne sera jamais la tête. C'est Jésus qui aura toujours une place supérieure. Est-ce que vous êtes d'accord? Il n'y a pas un membre du corps qui va être au-dessus de la tête du corps. Mais nous sommes quand même le corps de Jésus-Christ. Et nous sommes assis avec lui et en lui, à la droite du Père, n'est-ce pas? Manquez pas la merveille de son humanité. Il y a un verset en Apocalypse 22 que ça me donne des frissons à chaque fois que je lis cela. C'est à la fin de cette révélation que Jésus a donné à Jean, l'apôtre, il a dit, « Moi, Jésus !» Et n'oubliez pas ceci. Jésus-Christ est en train de se révéler à Jean, l'apôtre. L'apôtre Jean, c'était la personne la plus proche de Jésus. Vous vous rappelez? Lors du dernier repas, Jean, l'apôtre, avait sa tête sur la poitrine même de Jésus. Il était penché sur Jésus. Ils étaient proches. Parce que Jésus était quand même un homme au sein du Saint-Esprit à ce moment-là, avant sa crucifixion. Mais après la crucifixion, après la glorification de Jésus, quand Jean a vu Jésus-Christ, il est tombé comme mort à ses pieds. Il ne penchait pas sa tête sur la poitrine, parce qu'un membre de la race humaine fut élevé, glorifié. Pas n'importe quel membre de la race humaine, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, Jésus-Christ. Donc, je veux que tu vois, quand je dis que Jésus est encore un homme, il n'est pas un homme comme nous connaissons les hommes aujourd'hui. C'est un homme à un autre niveau. Un niveau que, dans un sens, on va avoir l'occasion de goûter à cela dans les années à venir. Quand mon corps physique va mourir ou quand Jésus va venir nous chercher, mon corps physique va être glorifié pour être semblable à son corps, la Bible dit. N'est-ce pas merveilleux? Mais Jésus a dit, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Gloire à Dieu!
On parle, Jésus glorifié, il dit, je suis la postérité de David. Le rejeton est la postérité de David. Littéralement, Dieu a gardé sa promesse à David. Il a mis quelqu'un sur le trône d'Israël pour l'éternité. Et c'est Dieu, le Fils. Fils de David, fils de Dieu. Que c'est merveilleux. Ne manquez pas le miracle de Noël. Ne manquez pas la puissance de son amour non plus. Ou on peut dire la puissance de son nom. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le droit de devenir enfant de Dieu. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, demandez au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et même sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est quoi? Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Vous savez que la vérité, c'est qu'un jour, tous les genoux vont fléchir. Et toutes les langues vont confesser, Jésus, fils de David, fils de Dieu, tu es Seigneur. Tous les Juifs qui n'ont pas cru, ils vont dire, Jésus, tu es le Messie. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Tous les non-juifs, tous les hindous, tous les bouddhistes, tous les musulmans, un jour vont dire, oh! Parce que vous savez, aujourd'hui, à Jérusalem, là où le temple des juifs est supposé d'être construit, on a un masque aujourd'hui. Et il y a une inscription dans le dôme du rocher là, qui dit dans le fond que Dieu n'a pas de fils. Et tu parles avec des musulmans aujourd'hui, et j'aime les musulmans. J'ai un vrai amour pour eux. Il y a beaucoup de bonnes personnes. Ce n'est pas toutes des radicales, vous comprenez. Hein? Mais la réalité, c'est que tu parles avec des musulmans, et souvent, je m'en souviens, j'étais à Paris il y a peut-être 15 ans. On faisait l'évangélisation dans la rue à Paris, et je parlais avec un jeune homme africain qui était musulman, mais je ne savais pas au début, mais je commençais à parler de lui, de Jésus, il me dit tout de suite, Dieu n'a ni de fils, ni de fille. Eux autres, ils ne croient pas que Dieu peut avoir un fils, parce qu'ils ne comprennent pas Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont un. Donc pour eux, c'est quelque chose d'important, c'est un point fort dans leur doctrine que Dieu n'a pas de fils. Et c'est écrit même dans le dôme que Dieu n'a pas de fils. Mais un jour, tous les genoux vont fléchir, tous ces musulmans vont dire, Jésus, tu es le Fils de Dieu. J'y crois. Qu'est-ce qui est triste, c'est que pour beaucoup, ça va être trop tard. Parce que pour être sauvé, pour avoir notre place au ciel, il faut confesser aujourd'hui, ici, sur la terre. Parce qu'il est donné à tout le monde de mourir une seule fois et après le jugement. C'est aujourd'hui la journée du salut. Aujourd'hui, on a besoin d'invoquer le nom de Dieu. Acte 4, 12 dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Tout le monde dit, aucun autre nom. Même si tu es sincère, même si ta croyance à Mohammed est sincère, et les gens vont dire, oh, il n'est pas tolérant, le pasteur. Je suis très tolérant. Dans le sens que j'aime tout le monde et je respecte tout le monde et on devrait être prêt à donner notre vie pour aider tout le monde à connaître le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? On devrait être capable de sacrifier même nos vies pour que le monde musulman connaisse la vérité de la parole de Dieu. Pour que les hindous, les bouddhistes et les autres qui ne connaissent pas Jésus, on devrait être prêt à donner notre temps, notre trésor, même notre temple pour qu'ils puissent connaître cette vérité, n'est-ce pas? Ce n'est pas de la haine que j'ai, c'est de l'amour que j'ai. Ce n'est pas l'amour de dire à quelqu'un, « Oh, c'est correct, vas-y, continue, suis ce chemin-là. Si tu sais que le pont est détruit et que s'ils continuent sur le chemin, ils vont tomber et mourir, ce n'est pas de l'amour de dire, « Oh, ben, je ne veux pas les déranger. » Laisse-moi vous dire, si tu savais, hein,
J'ai vu des images d'un tremblement de terre à San Francisco en 1986, je pense. Il y avait des autoroutes qui étaient détruites, et les autos qui tombaient littéralement, les gens qui meuraient. Laisse-moi te dire, hein? Et j'ai vu à un moment donné quelqu'un qui est sorti de son véhicule en train de sauter. Arrêtez, arrêtez, arrêtez! Vous allez mourir! Il avait l'air fou, hein? Et chaque personne, c'est quoi son problème? C'est quoi son problème? Je voulais t'avertir. Et des fois, ils vont faire la même chose avec l'Église. C'est quoi son problème? Pourquoi est-ce qu'il parle de Jésus, qui c'est le seul nom? On devrait tous entendre. Enfin, Noël pour toujours. On ne peut pas avoir Noël pour toujours avant d'accepter le Fils, avant de croire en son nom. Il n'y a pas de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Tout le monde dit aucun autre nom. Qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devrions être sauvés. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et malheureusement, voici la dure réalité de la vie. La plupart des gens dans notre entourage ont manqué Noël, ne comprennent pas le message de Noël. Il y a même des personnes qui vont fréquenter les églises. Ils ont manqué Noël quand même. Moi, j'ai fréquenté une église comme un petit garçon. Je m'en souviens. J'étais dans une église traditionnelle avec mes parents. Mes parents n'avaient même pas reçu Jésus comme sauveur. Comme je dis, mon père ne croit même pas aujourd'hui que Jésus est Dieu. Ça va changer au nom de Jésus. Moi, je ne connaissais rien. J'étais dans la confusion. Tout ce que je voyais, c'est que je voyais un bonhomme devant nous dans une longue robe et je demandais à ma mère, « Est-ce que ça, c'est Dieu? » J'avais comme 3 ans. « Est-ce que c'est lui? Est-ce que ça, c'est Dieu? » Je ne comprenais rien. Mais combien de gens, ils vont fréquenter les églises, ils vont dire, « Oh, je suis chrétien. » Ils n'ont jamais reçu Jésus. Ils n'ont jamais reçu le don gratuit de la vie éternelle. Ils n'ont jamais cru en son nom. Ça, c'était mon histoire. Et aujourd'hui, laisse-moi vous dire qu'on est entouré par des multitudes de gens qui n'ont jamais connu le miracle de Noël, personnellement. Et on a une occasion cette année de faire connaître la vérité. On a une occasion cette année de partager la bonne nouvelle. Et voici ce que je commençais à dire. La dure réalité, c'est que beaucoup de ces gens pensent que leur vie est correcte. Il y a un chemin qui semble bon à un homme, mais ça finit par la mort. Il y a des personnes qui ne savent pas qu'ils sont sous l'empire du diable. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin, mais les gens ne le savent pas. Et c'est pourquoi il y a des personnes qui pensent que Dieu est en contrôle de tout ce qui se passe dans la vie. Si Dieu existe, et si Dieu est bon, pourquoi est-ce qu'on a des guerres? Pourquoi est-ce qu'on a des problèmes? Pourquoi est-ce qu'on a tant d'enfants qui souffrent? Pourquoi est-ce qu'on a tant de divorces? Pourquoi est-ce qu'on a tant de maladies? Si Dieu est tellement bon et tellement puissant, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que Dieu est bon et que Dieu veut faire des bonnes choses. Mais la dure réalité, c'est que les gens qui n'ont pas encore reçu Jésus personnellement, qui ne sont pas, comme Jésus a dit, nés de nouveau, sont toujours sous l'empire du diable. Et même si Dieu veut vous sauver, même si Dieu veut vous délivrer, même si Dieu veut vous épargner de cette douleur et de ces problèmes et de cette misère, il ne peut plus rien faire. Il a déjà tout fait en envoyant son Fils. Et si on peut apprendre et comprendre et saisir la réalité de Noël et recevoir Jésus, on peut devenir une nouvelle création dans Jésus. Et on peut être transporté du royaume des ténèbres et né de nouveau dans le royaume de son Fils bien-aimé. Et à partir de ce moment-là, on peut apprendre à saisir les promesses de Dieu et marcher dans la lumière comme il est dans la lumière et jouir de toutes les bénédictions que Dieu a promis pour nous. Mais avant de faire cela, nous sommes destinés à vivre le restant de nos jours comme les esclaves dans les ténèbres. Jésus nous offre la vie. Jésus nous offre un cadeau, le cadeau des cadeaux, et c'est à Dieu de recevoir le Seigneur des Seigneurs. On va se lever debout ce matin, on va prier. Je ne sais pas si Jean-Charles peut venir au clavier. Dernière chose dans les notes, si vous voulez, c'est de ne manquer pas la puissance de son nom. Parce que c'est en invoquant le nom de Jésus qu'on est sauvé.
J'avais juste à cœur de vous exhorter un peu ce matin, de penser au miracle de Noël, de ne pas manquer la divinité de Jésus, l'humanité de Jésus-Christ et la puissance de son nom. Nous vivons dans un monde infecté par le péché. Jésus a dit en Jean 10:10, le voleur, il parlait de Satan, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait même avec abondance. Mais pour avoir cette vie, 1 Jean 5 dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc, ce n'est pas une question de croire qu'il existe, parce que, comme la parole de Dieu dit, tu crois que Dieu est un? Même le diable, lui-même, il croit que Dieu existe et il tremble. Ce n'est pas une question d'avoir un assentiment intellectuel, de croire que Dieu existe. C'est une question de croire à la bonté de Dieu. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais on ne peut pas le chercher n'importe comment. Il faut le chercher en s'approchant de lui au nom de Jésus. On s'approche de lui au nom de Jésus. Donc, avec tous les yeux fermés ce matin, j'aimerais, comme on fait à chaque dimanche matin, vous savez que à tous les dimanches, je donne une invitation pour ceux et celles qui ont besoin de connaître Jésus et de recevoir la vie éternelle, de faire cela. Donc, avec tous les yeux fermés, je veux juste savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui lèverait la main en disant, « Pasteur, j'ai besoin de donner ma vie à Jésus. » Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est le Fils de l'homme. Et je crois qu'il n'y a pas un autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devrions être sauvés. Est-ce qu'il y a quelqu'un que ce matin tu dirais, « Moi, je n'ai pas encore reçu personnellement. » Peut-être tu as cru que Jésus existe. Peut-être tu as cru qu'il est venu, peut-être tu as cru qu'il est mort, qu'il est ressuscité, mais toi, tu n'as jamais invoqué son nom avec tes propres lèvres. Tu n'as jamais cru dans ton cœur. Et la Bible dit que si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que tu seras sauvé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lèverait la main en disant, aujourd'hui, je ne veux pas manquer Noël, je veux recevoir Jésus. Juste lever la main bien haut dans l'air, il y a une personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, il y a deux personnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ce matin qui veut recevoir Jésus. Alléluia. Je pense qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que c'est tellement important. Il y a un autre enfant aussi qui veut recevoir le Seigneur Jésus. Mais tu sais, Jésus a dit quelque chose. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Mais Jésus-Christ a dit ceci, « Si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. » Si tu me renies devant les hommes, je te renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Il y a quelque chose qui se passe quand on n'a pas honte de dire, « Oui, je veux accepter Jésus. » Donc moi, je vais tout simplement demander aux gens, parce que peut-être vous avez, c'est la première fois que tu donnes ta vie au Seigneur, peut-être tu t'es éloigné de lui et tu as besoin de renouveler ton engagement à lui, je vais t'inviter à venir aussi. Mais je vais juste demander à ces jeunes de prendre un pas de la foi. Peut-être ça va être difficile dans un sens de le faire, mais fais-le quand même. Le Seigneur va t'honorer. Aujourd'hui, on va prier ensemble. Juste ceux qui ont levé la main, juste viens ici, juste tenir ici. Je vais prier avec toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Ces gens-là n'ont pas honte de dire qu'ils veulent suivre Jésus. Alléluia. Est-ce que les autres? Amen. Amen. Tu sais, que tu sois homme, femme, vieux, jeune, ça fait rien. On veut recevoir Jésus. Et aujourd'hui, tenez-vous juste ici, regardez-moi, je veux vous parler une minute pour que je puisse voir vos visages. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut venir aussi se rejoindre à eux? Alléluia. Que Jésus est vivant. Il est Seigneur. Combien de vous, c'est la première fois que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus? Ici, toi, c'est pour un renouvellement de ton engagement. Est-ce que vous autres, vous avez déjà pris dans le passé pour recevoir Jésus? C'est la première fois. Première fois. Super. Première fois pour toi aussi. Super. Toi aussi? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une prière dans une minute. Et je veux que cette prière vienne de ton cœur. Moi, je vais te diriger quand même. Je vais te demander de répéter la prière après moi, mais pense à ce que tu dis. Et sache que, comme les enfants ont cité ce verset, quand ils ont supplié à l'Éternel, il s'est penché vers eux, il a prêté l'oreille, il a entendu. La Bible dit que les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives dans leur prière. Et aujourd'hui, en priant au nom de Jésus, vous pouvez être sûr et certain que Dieu entend ta prière. Et qu'aujourd'hui même, qu'il va déclencher un miracle dans votre cœur. Je ne dis pas que vous allez forcément avoir des frissons ou des sentiments, des émotions. Ça se peut, oui. Mais ça se peut, non aussi, parce que c'est par la foi. On croit que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Et en faisant ce pas de foi ici, le Seigneur, il te rencontre. Et en faisant la prière que vous allez faire, vous allez savoir sans aucune doute que vous êtes enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Ça va juste le commencement. Je n'ai pas dit que tous les problèmes de votre vie vont être réglés du jour au lendemain, mais vous aurez un nouveau départ. Et qu'est-ce qu'on sait? C'est que tous les péchés que vous avez commis dans le passé vont être effacés par le sang de Jésus. C'est comme si tout ce que vous avez fait, tout, peu importe qu'est-ce que vous avez fait, ça va être effacé. Vous allez être blanche comme la neige, nette, pure et propre. Donc, on va prier cette prière au nom de Jésus. Juste fermez les yeux et prions cette prière ensemble. Et je demande à tout le monde dans la salle de prier cette prière. Père Céleste, j'ai besoin de toi. Je ne veux pas manquer le don que tu m'as fait. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je reconnais que sans toi, je suis perdu. Il n'y a aucune espérance. Mais en toi, Seigneur, j'ai de l'espoir. Et je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois de tout mon cœur que Jésus est le Fils de Dieu. Et que Jésus est le Fils de David, qu'il est le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Et à partir d'aujourd'hui, je vais te suivre, je vais te servir, tu es mon Maître. Viens dans mon cœur, fais de moi une nouvelle création, par la puissance de ton Esprit. Je suis pardonné, par le sang de Jésus. Mes péchés sont lavés, ôtés. Ces choses n'existent plus. C'est un nouveau départ. Je suis enfant de Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, je vais te suivre jusqu'à la fin de ma vie. Et je sais sans aucun doute que j'ai une place pour moi réservée au ciel. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, la Bible dit que tous les anges des cieux se réjouissent si un pécheur se répand. Alléluia. Merci, Père Céleste. Donc, alléluia.